Lors du premier sujet, nous avons parlé de cartographie, des données sous licence libre. Le sujet principal d'aujourd'hui traite aussi de ces thèmes, car il porte sur le système d'information géographique libre QGIS. Nous vous reproposons un échange qui a été diffusé lors de l'émission du 9 mars 2021. Je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le système d'information géographique libre QGIS. Avec nos invités Régis Aubourg et Vincent Picavet, la discussion va être animée par Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, auquel je passe la parole en espérant que les trois soient sur le pont téléphonique. C'est à vous.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jean-Christophe Becquet, le vice-président de l'April, et je suis ravi d'animer cette émission avec Régis Aubourg, président de l'OSGOFR, et Vincent Picavet, gérant de Osmandia. Et je vais leur passer la parole tout de suite pour les inviter à se présenter, à nous en dire un petit peu plus sur leurs structures respectives. On commence par toi, Régis, si tu veux bien.
Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, Régis Aubourg, moi, je suis géomaticien, un métier qu'on a toujours beaucoup de mal à expliquer à l'extérieur. Je gère des données géographiques depuis assez longtemps, venant d'un métier de l'agronomie, et de fil en aiguille en tombant dans le jeu de l'open source dans mes différents métiers. Je suis arrivé à contribuer au sein d'une grande famille qui s'appelle l'OSGEO, qui est une fondation mondiale qui rassemble tous les promoteurs du logiciel libre géomatique et open source évidemment. Et donc je suis actuellement président de l'association française qui promeut ses actions, dans laquelle le groupe QGIS, utilisateur français, est hébergé. Et on essaie de faire des actions de promotion et de soutien de ce projet et de financement.
Et par ailleurs, actuellement, tu travailles dans une collectivité en tant que géomaticien, c'est ça ?
Voilà, j'ai un parcours où j'ai commencé par un établissement public de l'État, dans lequel j'ai conduit des migrations de bases de données et de systèmes d'information géographique vers du libre pendant assez longtemps. J'ai passé 4 très belles années en société de service en logiciel libre, que va vous présenter par la suite Vincent Picavet. Et là, je suis retourné à mes amours de proximité avec les utilisateurs et continuer ce beau projet.
Merci Régis. Vincent Picavet, donc tu es le gérant de Osmandia, une entreprise spécialisée dans la géomatique libre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
C'est ça. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, je dirige Osmandia depuis maintenant plus de 10 ans. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai commencé l'open source avec Debian Sync, donc ça rejoue 8 personnes, ça, c'est quand même un peu vieux. Et puis, au fur et à mesure de mes différentes expériences, j'en suis arrivé à me spécialiser dans les systèmes d'information géographique, et plus spécialement autour de PostGIS initialement. Et j'ai créé Osmandia il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans, que je dirige toujours. Et Osmandia fait du, sur la petite histoire, le OS c'est open source, l'Inde c'est le pays, le territoire, et on fait du système d'information géographique open source, et aujourd'hui on se positionne en tant qu'éditeur QGIS et pure player open source, donc on est vraiment dans le développement de cette solution-là et de toute la gamme de services autour de ce projet.
Ok, merci à tous les deux. Donc on a parlé de géomaticien et de QGIS, et donc pour commencer, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que QGIS et à quoi sert ce logiciel, Régis ?
QGIS, c'est un logiciel qui contient GIS dans le nom, c'est un Geographic Information System. Et le Q, peut-être que je laisserai la parole à Vincent pour expliquer l'origine informatique, c'est plus son domaine que moi. C'est un système qui est extrêmement transversal, qui permet d'observer le monde. C'est moi pour ça que je suis tombé en passion de ces outils-là, venant du monde de l'agronomie, l'agriculture, parce que j'en avais besoin juste pour comprendre les territoires, comprendre les écoulements d'eau, comprendre comment fonctionne l'agriculture sur un territoire, l'interaction avec les îles. Et donc on manipule des données pour spatialiser des forêts, des routes, etc., les caractériser. Donc en fait, c'est des bases de données. On les représente dans l'espace et sur un écran en les reprojetant, en prenant en compte toutes les questions compliquées de géodésie, de rotondité de la Terre. Et on les analyse, et puis ça peut finir par donc de la cartographie orientée papier, de la cartographie orientée numérique sur des serveurs web pour faire des cartes interactives. Et QGIS, au milieu de tout ça, c'est un peu le couteau suisse qui vraiment s'impose, qui permet de faire du travail bureautique essentiellement au départ, et qui maintenant s'étend vers le web, et qui sait lire la majorité des formats de données et de bases de données qu'on fait manipuler, donc des données vectorielles, des points de ligne, des polygones, des images, ça peut être des nuages de points, etc. Et donc on retrouve des usages dans tous les domaines de ce type d'outils. Donc moi j'ai parlé d'agriculture, environnement, on peut parler d'urbanisme, de cadastre, de réseau d'eau, il y en a qui s'amusent à cartographier Mars avec ce type d'outils, ou le scalp des cheveux chez certains fabricants de shampoings, si j'ai tout compris.
Ah oui, donc en fait QGIS ça va beaucoup plus loin que juste dessiner des cartes. Vincent, tu souhaites ajouter quelque chose?
Oui, c'est vrai que c'est un usage qui est en général très majoritairement professionnel aujourd'hui. On s'adresse vraiment à des gens qui utilisent cet outil dans leur métier, et le métier peut être très varié. Comme disait Régis, les deux anecdotes d'utilisation vraiment les plus atypiques que j'ai vues de QGIS, c'est donc une grande entreprise que je ne citerai pas qui réalisait des cartographies de la peau humaine pour analyser l'effet des cosmétiques. C'est intéressant, on s'y attendait pas. Et puis j'ai également rencontré complètement par hasard un utilisateur qui faisait de la cartographie de la pensée de Deleuze sur QGIS. Et donc là on est complètement dans des choses très très conceptuelles, mais qu'on peut rattacher quelque part au territoire. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment sur un outil qui a un spectre d'utilisation qui est très très large et pour des domaines super variés. Et c'est ce qui fait aussi beaucoup l'intérêt des systèmes d'information géographique et de nos métiers.
Alors, une question d'un auditeur, je la pose maintenant parce que je pense que c'est vraiment lié à ce que vous venez de raconter. Est-ce que QGIS a un lien avec OpenStreetMap? Régis?
QGIS est un client OpenStreetMap. À la différence de beaucoup d'autres clients, on peut télécharger de la donnée OpenStreetMap et l'analyser en local. C'est pas une appli web, hein, donc une fois que vous l'avez chez vous, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc il y a des extensions QGIS qui sont très spécialisées à venir consommer les données OpenStreetMap. Il n'y a en revanche pas encore un outil pour éditer OpenStreetMap, les données OpenStreetMap, tout simplement parce que les modèles de données qu'on utilise en système d'information géographique sont assez différents des primitifs qu'on trouve dans les bases OpenStreetMap. En système d'information géographique, on hérite du monde des bases de données, donc avec des tables, des champs, des enregistrements, et puis des objets géographiques qui sont une caractéristique comme une autre pour présenter ces objets-là sur une carte. OpenStreetMap, il y a des primitives d'une structure un peu différente, donc le passage de l'un à l'autre n'est pas si simple.
Merci. Et donc, j'ai envie de vous demander maintenant, on va faire un petit peu d'histoire. Vincent, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment a démarré le projet QGIS et du coup peut-être nous expliquer le Q de QGIS?
Ouais, alors le projet QGIS, il démarre dans les années 2000 à peu près. C'est Gary Sherman qui est un résident d'Alaska, donc perdu tout un fin fond des montagnes, qui a l'initiative de développer un outil qui va lui permettre de visualiser les données qui sont intégrées dans PostgreSQL PostGIS. PostgreSQL PostGIS en tout cas, c'est l'extension qui permet de faire de traiter de la donnée cartographique à l'intérieur de la base de données que vous connaissez certainement qui est PostgreSQL. Et on pouvait stocker ces données, on pouvait les analyser dans la base de données, mais on ne pouvait pas vraiment les visualiser. Donc Gary Sherman, il s'est dit, je vais développer un visualisateur de ces données PostGIS qui pourra se connecter sur la base et m'afficher la cartographie de ce qu'il y a à l'intérieur. Et il l'a fait sur une base en utilisant Qt, qui est le framework C++ qui permet de faire de l'interfaçage graphique. Et donc le Q de QGIS, ça vient de Qt. Et pour la petite histoire, il y a dans les classes C++, alors Gary Sherman ne contribue plus vraiment maintenant au projet, mais toutes les classes C++ de QGIS commencent par QGS, et en général on pense que ça veut dire QGIS et qu'il manque le I, mais en fait ça veut dire Qt Gary Sherman, c'était ses initiales qui traînent encore dans tout le code, donc il y a l'ombre de Gary Sherman qui plane là-dessus, qui est toujours présente, et donc le Q de QGIS vient de Qt. Donc c'est développé en C++, c'est un outil qui est multiplateforme, là où initialement, quand les premières versions sont sorties, tous les logiciels SIG open source était plutôt orienté Java, il y avait OpenJump, il y avait GVSync qui étaient des choses assez lourdes avec des interfaces un peu à l'ancienne. Au fur et à mesure, QGIS a évolué pour avoir de nouvelles fonctionnalités, pour avoir des nouvelles capacités de visualisation, de traitement de données, et au fur et à mesure a commencé à grossir. Au départ, on a eu une première vague de contributeurs qui étaient plutôt bénévoles. On va retrouver des gens comme Tim Sutton, Paolo Cavaini, Sandro Santi, qui sont des gens assez connus dans la communauté QGIS maintenant. Et puis, ce projet qui est dans les années 2006 à peu près, était encore un peu balbutiant, pas trop de fonctionnalités, a vu au fur et à mesure son écosystème grandir, a vu aussi un marché de services associés qui est arrivé avec des sociétés qui ont commencé à apparaître, donc SourcePol, OpenGIS, Auslandia, nous c'est 2009, Camp2Camp, Tartosa, Lutra Consulting, il y a un certain nombre de boîtes dans le monde qui sont montées, qui ont commencé à proposer du service autour de QGIS, et tout ça a fait grossir l'écosystème de façon assez forte. Et on a vu des nouveaux contributeurs arriver au fur et à mesure, par l'intermédiaire du Google Summer of Code, par l'intermédiaire d'autres initiatives. Et puis, il y a eu un tournant un peu dans le développement de QGIS qui a été le fait qu'on puisse développer des plugins sur QGIS. Donc, QGIS, c'est aussi une plateforme de développement. On peut l'étendre avec des plugins en Python. Et ça, ça a fait exploser le nombre d'utilisateurs et de contributeurs de l'écosystème, pas forcément directement de la solution QGIS, mais de l'écosystème, en fournissant des solutions pour des outils pour régler tout un nombre de problèmes très spécifiques, très génériques parfois, mais avec une liberté qui était très forte dans la capacité à prendre cette base informatique pour en faire ce qu'on voulait. Et donc, au fur et à mesure, ça a donné un projet qui a gagné une dynamique très forte et qui est aujourd'hui en accélération encore avec une augmentation du nombre d'utilisateurs, mais aussi du nombre de développeurs et du nombre des prestations qui sont autour aussi, tout l'écosystème économique qui s'y trouve.
Merci Vincent. Alors juste pour préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec le domaine du développement de logiciels, un framework en fait c'est un ensemble de composants logiciels sur lesquels on s'appuie pour développer, et ça permet en fait de bénéficier d'un certain nombre de fonctions génériques pour ne pas à chaque fois réinventer la roue, c'est-à-dire que plusieurs logiciels partagent par exemple la fonctionnalité ouvrir une boîte de dialogue pour accéder à l'arborescence des fichiers sur le disque dur, eh bien, le framework va offrir cette fonctionnalité. Ça va éviter aux développeurs de devoir tout réécrire à chaque fois. Et donc, le framework Qt, Qt en français, c'est un des grands frameworks libres sur lequel on peut s'appuyer pour développer des logiciels. On parle d'un logiciel qui a aujourd'hui une vingtaine d'années. Tu as dit que effectivement ce logiciel était aujourd'hui très très dynamique avec un grand nombre de plugins, d'extensions qui viennent compléter les fonctionnalités du logiciel. Et aujourd'hui QGIS c'est un peu plus qu'un logiciel, c'est un logiciel, mais c'est aussi tout un écosystème de développeurs, d'utilisateurs. Régis ?
Oui, en effet, moi je reviens un peu sur ce qu'a dit Vincent, là, la phase de transition. Moi j'ai débarqué dans le projet QGIS à cette époque-là en tant qu'acheteur public qui devait faire évoluer un système d'information géographique pour s'appuyer sur des bases de données solides. Et on avait choisi PostgreSQL à cette époque-là. Et QGIS était encore très immature, hein. C'était un outil qu'on utilisait sans le donner aux utilisateurs. Et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, on va essayer de voir si on peut financer des petites évolutions pour que ça devienne un outil dans un coin qui nous permet de facilement visualiser les données. Et on s'est rendu compte que avec cette communauté de développement extrêmement accueillante, dynamique et réactive, on a pu, en l'espace de moins d'un an, en quelques financements, combler les manques fonctionnels qu'on avait par rapport aux outils en place, aux outils propriétaires en place. Et en fait, cette dynamique s'est accélérée d'elle-même parce que chaque euro financé qu'on injectait, on voyait que ça déclenchait des financements à l'autre bout du monde sur des thématiques similaires. On est rentré dans une boucle vertueuse extrêmement vite. Et c'est cet aspect-là, plus que l'aspect informatique, moi, qui m'a fait tomber amoureux du projet, hein, à la fois l'accueil et l'ouverture de cette communauté et l'efficience de l'argent qu'on injectait dedans. On recevait beaucoup plus que ce qu'on mettait dedans. Donc sur la communauté QGIS, effectivement, il y a une explosion du nombre d'utilisateurs dont on n'a absolument aucune idée du chiffre, car on ne collecte pas de statistiques et on ne veut pas le faire. Et du coup, ça aboutit souvent à ces indicateurs. On essaye d'estimer combien de personnes utilisent QGIS avec des nombres de visites, de pages, de téléchargements, mais on est rendu sur quelques millions, mais on sous-estime très largement le nombre d'utilisateurs réels. Hein. En entreprise, il y a un téléchargement qui va déployer 2000 postes. Et on parlait tout à l'heure de la gendarmerie. La gendarmerie a déployé QGIS sur sa distribution Gemubuntu et sur ses postes Windows également. Et ça dessert potentiellement 9000 postes. Pas 9000 utilisateurs, mais voilà. Une grosse vitalité de l'écosystème.
Oui, Vincent.
Pour illustrer la dynamique, une petite anecdote aussi, qui était, je crois que c'était en 2006, j'étais à l'OSGOFR à cette époque-là, à la place un peu de Régis, et le ministère de l'Environnement vient nous voir en disant, ça nous intéresse, QGIS, on voudrait bien s'y mettre, c'est potentiellement une solution pour le ministère, on cherche des informations, puis on voudrait faire une étude dessus, on vous tient au courant. Ils reviennent 6 mois après et ils nous disent on a étudié le logiciel et c'est super, mais il y a ça et ça qui ne marche pas. Donc ils nous avaient fait une belle liste, ils avaient interrogé tous leurs utilisateurs, ils avaient fait des tests, ils avaient fait une grosse liste, ils avaient dit ça manque et aujourd'hui ça nous empêche de passer le logiciel comme étant quelque chose qui est recommandé. Et en fait, le temps qu'ils fassent le test, tout ce qu'ils avaient donné, la liste était complètement obsolète et tout ce qu'ils avaient donné comme problématique qu'ils avaient rencontré était déjà corrigé. Donc du coup, ça donne une idée de la dynamique du projet et on va en reparler, ça donne aussi des indications sur comment on fait pour s'intégrer correctement dans un projet open source avec une nécessité d'interaction forte entre les utilisateurs, les développeurs et le projet et son écosystème en tant que tel.
Alors, il y a Nordine sur le blog de l'émission, sur le chat de l'émission, qui nous dit « Je confirme, ministère de l'Environnement, on a laissé tomber MapInfo, donc concurrent privateur de QGIS, à la faveur de QGIS, qui parle de 90 000 postes. » Et du coup, j'ai envie de vous demander maintenant, est-ce que vous avez des exemples de déploiement de QGIS à grande échelle dans des structures, que ce soit publiques ou privées? Régis?
Oui, on n'en manque pas. Alors, il y a un certain nombre d'exemples que j'ai vécu moi-même, par exemple la gendarmerie. Hein, j'ai suivi ce projet de déploiement et surtout de configuration de QGIS pour qu'ils répondent facilement aux utilisateurs. Hein. Déployer, c'est une chose. Mais comme tout outil un peu complexe, un peu professionnel, il y a des boutons partout et on ne sait pas forcément quoi en faire. Donc l'essentiel de l'enjeu, c'est de bien l'adapter pour que ça s'utilise simplement. J'ai donc moi-même participé au déploiement au ministère de l'Environnement. J'étais dans un établissement associé et j'ai cofinancé avec le ministère de l'Environnement à cette époque-là, enfin avec les deniers de mon employeur. Donc ça représente plus que 90 000 personnes puisqu'il y a tous les établissements associés. Il y en a une bonne partie qui ont basculé aussi. On a vu des très grands comptes du domaine privé arriver, Vincent, tu me diras, il y a 5 ans peut-être, a commencé à arriver et puis prendre vraiment leur essor depuis 3 ans. Donc il y en a qui en ont parlé publiquement, comme Orange par exemple, hein, qui a refondu toute son infrastructure géomatique sur des briques libres. On a d'autres dont je ne sais pas trop parler. On a surtout des exemples en Suisse où il y a un mouvement massif et on va dire qu'une grande majorité des financements qui font bouger QGIS viennent de Suisse, où on a énormément de cantons, de communes, de grandes structures publiques et privées qui ont basculé. Et puis on a des opérateurs, parfois qu'on ne soupçonne pas, qu'on voit arriver simplement parce qu'ils se mettent à publier des plugins, des extensions, et du coup on se dit tiens, ils utilisent QGIS. Et c'est notamment le cas du fédéral américain, côté armée, côté NSA. Donc il y a des choses qu'on apprend nous-mêmes de l'extérieur, puisqu'on rien ne leur oblige à dire ce qu'ils font. Ils prennent la licence, puis ils en font ce qu'ils veulent. Et donc on pressent qu'en fait le déploiement est bien plus grand que ce qu'on connaît. On a des exemples un peu au hasard des rencontres et des indices qu'on trouve sur le net.
Et si je peux compléter, ce qui est intéressant avec QGIS, c'est ça, c'est vraiment lié à son caractère libre, c'est que non seulement on le retrouve dans des très grandes structures déployées à grande échelle comme la gendarmerie ou le ministère de l'Environnement, mais on le retrouve aussi dans des toutes petites structures. Moi, je travaille plutôt avec des petites collectivités en zone rurale, mais dans une mairie dans laquelle il n'y a pas de géomaticien, il n'y a pas de service dédié au système d'information géographique, on peut se trouver à avoir un QGIS installé pour visualiser le cadastre, pour gérer un plan pour des travaux ou pour des demandes d'urbanisme. Donc, c'est aussi un logiciel qui se prête très bien à une très grande diversité d'utilisation. Je vous propose, avant de parler un petit peu plus en détail de la communauté QGIS et du rôle joué par l'OSGOFR et comment ça fonctionne, comment ça s'organise tout ça, de prendre une petite pause musicale et je laisse la parole à Fred pour vous présenter le choix de la programmation.
Écoute, merci Jean-Christophe. Nous allons écouter Follow Me par Vendredi. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune. Make it a microphone check. Give it a microphone. I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat. Part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.
Nous venons d'écouter Follow Me par Vendredi, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous parlons au cours de cette émission du système d'information géographique libre QGIS. Je vais donc repasser la parole à nos invités Régis Aubourg, Vincent Picavet et Jean-Christophe Becquet. Et je rappelle que si vous souhaitez participer à notre conversation, c'est sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, libre à vous. Jean-Christophe, c'est à toi.
Merci Fred. Et donc, pour faire écho à la discussion effectivement qui se déroule sur le chat, un auditeur posait la question de la licence utilisée par QGIS et Vincent répond que QGIS est sous licence GPL V2 ainsi que ses plugins. Voilà, et je propose maintenant qu'on poursuive notre conversation autour de QGIS en parlant de la structure de la communauté. Et peut-être passer la parole à Régis pour nous expliquer un petit peu le rôle joué par l'OSGOFR et comment fonctionne la communauté QGIS.
Oui, alors le rôle de l'OSGOFR est relativement modeste, hein, on fait que relayer des actions de l'OSGO international qui fédère tous les outils géomatiques. Il faut bien voir que QGIS s'appuie sur des briques communes à beaucoup d'autres logiciels. On va utiliser des librairies d'accès aux données, de conversion des formats de données, des librairies de reprojection. On va s'appuyer sur des bases de données comme Postgres pour tirer la pleine puissance de QGIS. Et puis, il y a QGIS par-dessus qui s'appuie sur les épaules des géants, qui s'appuie sur les épaules de Qt également. Là-dedans, la structuration de l'OSGO va appuyer tous ces projets. QGIS en soi est devenu tellement dynamique qu'il a créé sa propre structure il y a 2 ans et demi, qui s'appelle QGIS.org, qui est une association qui s'est hébergée sur du droit suisse parce que c'était l'endroit où c'était le moins compliqué pour faire de l'administratif, qui jusqu'à présent n'existait pas. Et on avait un projet qui est passé de l'informel au semi-formel, où pour l'instant il y a un petit bureau de 6 personnes dans un comité de pilotage qu'on appelle le steering committee. Et il y a des budgets relativement faibles en fait sur QGIS parce que l'intégralité quasiment des moyens et des ressources passe directement entre des utilisateurs et des développeurs qui veulent faire évoluer le logiciel. Hein. C'est un peu le modèle économique qu'a Auslandia. Et donc autour de pour fluidifier tout ça, pour maintenir les sites web, maintenir les serveurs, faire toutes les tâches qui sont très difficiles à financer, on a l'association QGIS.org qui a un budget qui est en assez forte croissance, mais qui dépend essentiellement de dons, de sponsoring, maintenant d'adhésion de collectivités, d'entreprises, etc., qui ont la capacité de le faire. Et donc on a un budget d'environ 220 000 euros qui monte de 15-20% par an, qui reste minime, hein, c'est d'une frugalité et d'une efficience terrible. Et là-dedans, l'OSGOFR et le groupe QGIS francophone essayent de valoriser les actions de QGIS.org, donc relayer au niveau francophone tout ce qui se discute sur les listes internationales, relayer les initiatives de choix d'allocation de budget, donc on a une structure démocratique où quand il y a des fonds à allouer pour des innovations, pour consolider la documentation, pour des tâches de fond, de, par exemple faire des installeurs sur Mac, et ben, il y a des votes démocratiques et les groupes utilisateurs de chaque pays ont des droits de vote. Et donc l'OSGOFR relaye tout ça, essaye de prendre la tâche des utilisateurs et de créer un réseau d'utilisateurs et d'entraide également autour de tout ça. En France, on a déjà des réseaux d'entraide qui existent, donc on n'est pas trop positionné là-dessus, on est plus positionné sur l'organisation d'événements, comme les journées QGIS utilisateurs, qui ont lieu tous les ans depuis 8 ans, à Montpellier jusqu'à présent, cette année en distant, et on va probablement partir sur une logique de Tour de France et de se rapprocher des régions, donc plutôt appuyé par Rhône-Alpes Auvergne ces temps-ci, mais on va tourner, voilà. Et que dire de plus, j'étais encore ce midi en réunion visio avec le groupe QGIS-SR, il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de donner la main, envie de faire des groupes locaux. Et voilà, globalement comment ça fonctionne.
Toujours très mutualisation, dynamisme, ça fait rêver vos témoignages. Peut-être avant de passer la parole à Vincent pour parler des aspects au-delà du logiciel dans la communauté QGIS, une réponse rapide à une question qui a été posée par un auditeur. Quelle différence entre QGIS et JOSM? Donc JOSM est un des principaux éditeurs pour contribuer à la base de données libre OpenStreetMap. C'est vraiment un éditeur dédié à la contribution OpenStreetMap qui fonctionne aussi avec un système de plugins qui est aussi un logiciel libre, mais voilà, qui est vraiment spécialisé sur la contribution à OpenStreetMap. QGIS est un logiciel dont les fonctionnalités sont beaucoup plus larges et étendues. On peut dans QGIS consommer des données ou des fonds cartographiques OpenStreetMap, entre autres, mais ça fait plein d'autres choses encore, comme on l'a expliqué un petit peu en début d'émission. Vincent, le libre, ce n'est pas que du logiciel, et c'est un aspect important et parfois complexe dans la communauté QGIS. Est-ce que tu ne peux nous en dire deux mots ?
Oui, effectivement, c'est toujours un sujet dans le logiciel libre, qui au-delà de QGIS en proprement parler, hein, on a souvent des communautés qui sont centrées sur les développeurs, parce que c'est souvent qui sont à l'origine des projets. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez significatif, c'est qu'il y a des rendez-vous de la communauté des développeurs QGIS chaque année, hors période Covid. Et historiquement, c'était les développeurs speaking, donc c'était vraiment le rendez-vous des développeurs. On a changé le nom pour faire des community meetings, pour être beaucoup plus inclusif, parce que un logiciel tel que QGIS, c'est très loin d'être uniquement du code. Et il y a des aspects qui sont très importants également, mais qui sont souvent un peu de façon très ingrate, invisibilisés. On parle évidemment de la documentation. La documentation de QGIS, elle est assez complète. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. La contribution à la documentation, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que ça évolue en permanence. Il faut suivre les évolutions techniques des développeurs, justement. Le système technique de documentation n'est pas forcément super évident parce que non seulement il faut documenter, mais il faut ensuite traduire également la documentation. Donc, c'est des choses qui demandent une certaine technicité. Ça passe par du Markdown, du Sphinx, du Git, des pull requests, etc. Des tests unitaires de documentation. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires. Le ticket d'entrée pour documenter QGIS est assez élevé, donc c'est difficile de trouver des rédacteurs. Il faut être évidemment à l'aise en anglais et il faut connaître le logiciel assez bien. Donc la documentation, c'est un gros aspect de QGIS. C'est quelque chose qui est difficile aussi parce que on a du mal à trouver des gens qui se dédient à ça. C'est moins reconnu que le travail de développeur. On essaie de faire des efforts, mais force est de constater que c'est plus difficile pour les documentaires que pour les développeurs de prendre leur place. Mais la documentation, c'est pas le seul aspect au-delà du code qui est important pour un projet tel que QGIS. Il y a un aspect infrastructure qui est important aussi, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous développez une nouvelle fonctionnalité? Vous allez rajouter votre code dans le logiciel, mais à partir de ce moment-là, eh bien, on va reconstruire le logiciel, on va faire tourner tous les tests unitaires de façon automatique, on va construire des paquets de distribution d'installeurs, et tout ça, c'est des choses qui demandent énormément de temps, qui sont difficiles également, qui sont peu visibles, et surtout qui ne sont pas financées, parce que financer de la fonctionnalité, c'est assez facile. Les clients vont venir en disant, j'aimerais bien que QGIS fasse ce bouton-là en bleu plutôt qu'en vert. En général, c'est plus complexe, mais ça peut ressembler à ça. Et puis, on va dire, ok, je vous développe ça, ça va coûter tant, très bien, je voulais développer, vous avez votre changement de couleur, vous êtes content, tout le monde est content. Par contre, leur dire, vous allez payer quelques milliers d'euros pour que les serveurs tournent, pour pouvoir faire un build automatique à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va committer, déjà, ils comprennent plus rien, ils voient pas l'intérêt immédiat pour eux. Ça va certes augmenter la qualité du logiciel, mais il n'y a pas une boucle de rétroaction qui est suffisamment efficace et visible pour que ça draine du financement.
Donc, est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est un build automatique quand quelqu'un a committé?
Alors, quand on prend le code source, on va rajouter des lignes au code source. Et puis, une fois qu'on a rajouté ces lignes au code source pour faire une nouvelle fonctionnalité, eh bien, il faut construire le logiciel. On prend le code source et puis on va faire ce qu'on appelle un binaire, un installeur. Si on reprend les gens qui ont l'habitude d'être sous Windows, c'est quand on clique sur suivant, sans lire ce qui est écrit. Ça, c'est l'installeur. On a à peu près les mêmes techniques sous les systèmes libres tels que Linux ou d'autres. Et puis, ce build, cet installeur-là, il faut qu'il soit construit. Et aujourd'hui, la construction, elle est automatique à chaque fois qu'on va prendre un nouveau code source. À chaque fois que quelqu'un va faire une modification, eh bien on va construire une nouvelle version de ce logiciel pour pouvoir le mettre à disposition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le packaging, c'est faire la boîte autour du logiciel avec l'installeur qui est à l'intérieur. Et ça, c'est des tâches qui sont assez difficiles à faire, qui demandent une grosse technicité, qui sont pas forcément très rigolotes et qu'on a souvent du mal à financer aussi.
Alors à nouveau, hein, pour apporter un témoignage de l'extérieur et par un utilisateur non spécialiste de la géomatique, sur les deux aspects que tu viens de développer, la documentation de QGIS, elle est effectivement parfaitement traduite en français et elle est d'une qualité remarquable, quoi, y compris pour la mettre entre les mains d'utilisateurs dont ce n'est pas le métier premier d'être géomaticien. Et sur le côté distribution du logiciel, donc QGIS bien sûr est multiplateforme, hein, tu l'as évoqué, il fonctionne sur la plupart des systèmes d'exploitation les plus courants, et il est livré sous une forme facile à installer. Sous Windows, ça va être un exécutable pour installer le logiciel. Dans les distributions Linux, ça va être des paquets intégrés à la distribution. Voilà, c'est effectivement un travail invisible, n'empêche que il est réalisé de manière très qualitative et très accessible. Donc tu l'as dit, hein, ce travail de documentation, d'infrastructure, de packaging du logiciel, ça se fait pas sans difficulté. Dans la communauté, ça se passe bien. On arrive quand même à recruter des gens pour faire ce travail. C'est compliqué.
Alors. Oui et non, c'est pas toujours facile. Alors il faut voir déjà que QGIS c'est pas tout seul, il va se baser sur un grand nombre de bibliothèques logicielles qui vont effectuer des tâches sous-jacentes, par exemple Proj qui va faire tout ce qui est gestion des systèmes de projection, GEDAL qui va faire toute la gestion des formats de fichiers, des formats d'accès à la donnée, et ça c'est à la fois. C'est des communautés qui sont très liées à QGIS, mais qui sont indépendantes aussi. Donc on va au-delà du code de QGIS, il y a aussi le code de tout l'écosystème OSGEO derrière qui est intéressant et qui est important pour QGIS. Ensuite, pour répondre à ta question sur les difficultés rencontrées, oui, clairement, il y en a parce que on est passé d'un logiciel qui était un logiciel de hobbyiste utilisé dans un coin avec très peu de fonctionnalités à quelque chose qui est utilisé par des millions de personnes avec énormément de fonctionnalités et une dimension qui est largement plus grande que ce qu'elle avait avant. Et donc, avec l'évolution du logiciel, il faut une évolution du fonctionnement de la communauté. Régis a parlé un peu de l'organisation de la communauté, la création de QGIS.org. C'est vrai aussi dans le contenu du logiciel, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de plus de qualité, donc de plus de process techniques dans l'évolution du logiciel. On va avoir besoin de plus d'automatisation, je parlais du packaging, de l'infrastructure. Et ça, parfois, ça crée des oppositions dans la communauté parce que ça complexifie le travail du développeur, ça ralentit aussi l'évolution du logiciel, par exemple. Et tout ça, y a des gens que ça dérange parce que ils n'ont pas envie d'évoluer, ils étaient bien dans leur situation confortable de développeur dans leur cadre et ils n'ont pas forcément envie que ça évolue. Mais heureusement et malheureusement, je ne sais pas, de toute façon c'est un état de fait, le logiciel et la communauté évoluent et l'écosystème évolue et donc il faut s'adapter. Donc ça peut provoquer parfois des tensions dans la communauté avec des visions qui sont différentes, de gens qui veulent aller plus vite, de gens qui veulent aller moins vite, et c'est pas forcément facile, donc là ça demande de la discussion, des rencontres de préférence en live pour pouvoir échanger autour d'un verre, et ça c'est quelque chose qui est important. La plus grande difficulté aujourd'hui du projet aussi, c'est la résilience, c'est-à-dire qu'il faut que le projet ne dépende pas d'une personne ou de quelques personnes, et on voit assez régulièrement dans le logiciel libre en général et dans l'écosystème QGIS en particulier, ce qu'on appelle la fatigue du mainteneur, qui est des gens sur qui la responsabilité du projet finit par reposer et qui ont, au bout d'un moment, font un burn-out parce que ils ont trop de responsabilités, trop de pression, trop de travail. Et ce qu'on appelle le buzz factor, si votre projet il dépend d'une personne ou de deux personnes, c'est un danger de résilience. Et ça, il faut le travailler en permanence et il faut le travailler dans sa dimension humaine, dans l'aspect des rapports sociaux, dans l'aspect de la considération de la personne et du travail qui est réalisé. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire dans une communauté et d'autant plus dans des communautés qui sont des communautés techniques de développeurs.
Alors, ce que tu dis, en tout cas, ça rejoint vraiment les témoignages que j'avais eus dans la première émission que j'avais animée sur le logiciel libre GeoTrek, un logiciel libre pour la gestion des itinéraires de randonnée avec les parcs des écrins et des Cévennes, dans lesquels, effectivement, les intervenants nous expliquaient l'importance de ce contact humain au sein de leur communauté. La difficulté à financer ce qui ne se voit pas, comme par exemple les changements de version dans le framework sur lequel on s'appuie pour développer, la solitude de l'animateur de la communauté. Donc voilà, c'est des choses que je retrouve. Régis, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, j'insiste là-dessus. On est passé en moins de 10 ans d'un logiciel où les gens venaient coder pour se faire plaisir à un logiciel qui s'est professionnalisé avec énormément de demandes. La plupart des bénévoles ont fini par se mettre à travailler à leur compte là-dessus, par plaisir, mais aussi parce que la demande était là. Et puis ça ne cesse d'augmenter et maintenant on voit des nouvelles catégories d'acteurs arriver, alors même qu'on a encore des bénévoles. Hein, je rends par exemple hommage à Risto Santana qui est français, qui fait un travail monumental de coordination et de documentation en bénévole. Et à côté, on a des très grands acteurs comme SAP qui arrivent et qui veulent influencer sur l'avenir de QGIS, comme des très gros dont on peut pas trop dire le nom et dont on sait qu'ils tirent énormément parti de ces outils-là, ils les déploient chez eux. Et notre enjeu actuellement, et c'est pas vrai que pour QGIS, c'est vrai pour toutes les briques sous-jacentes, c'est de tirer une partie des revenus qui tirent de ce logiciel-là pour les faire vivre. Donc, et la pression sur les développeurs, elle est aussi liée au niveau de pression et d'exigence qu'ont ces très grands acteurs sur les développeurs. Et les gens qui sont dans ces entreprises-là, par exemple IBM dernièrement, n'ont pas conscience du modèle économique open source. C'est impossible de discuter avec la hiérarchie. Donc on a des grandes structures qui ont une prise de conscience par le haut, comme Orange, de la stratégie open source, et puis il y en a d'autres qui arrivent juste un peu opportunistes, et il y a un enjeu à éviter que ça mette trop de pression sur tout le monde, mais quand même à accepter cette croissance-là pour faire que le projet soit plus résilient.
Oui, j'ai envie de dire que l'opportunisme n'est pas forcément gênant quand il se cantonne à utiliser le logiciel sans contribuer, mais lorsque on cherche à influencer effectivement l'évolution du logiciel ou à exiger certaines orientations ou l'ajout de certaines fonctionnalités, si on participe pas à l'effort, effectivement ça pose rapidement des problèmes. Alors tu as parlé de gros acteurs privés comme Orange ou IBM. Il y a aussi un rôle important des acteurs publics. Est-ce que l'un de vous souhaite aborder la question de QGIS et les marchés publics?
Avec plaisir. Allez, c'est toujours un plaisir, les marchés publics. C'est un peu un des sujets par lesquels j'aborde moi plus le projet QGIS. Je suis ni développeur, ni très, très impliqué dans la documentation et la traduction. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un écosystème économique viable, y compris pour les acteurs publics. Et ça passe forcément par les marchés publics. Il faut bien comprendre qu'on n'intervient pas de la même manière sur un logiciel libre qu'un logiciel privateur. On n'achète pas une boîte toute prête, on intervient et on prend la main sur sa destinée quand on vient intervenir sur un logiciel libre, sur QGIS par exemple. Et du coup, les marchés qu'il faut qu'on ait, il faut qu'ils s'adaptent à la communauté qu'il fait vivre, hein, parce qu'on ne va pas lui imposer des choses qu'elle ne veut pas. Donc, il faut être capable, dans ces marchés-là, de prévoir de quoi discuter en amont, de faire en sorte que qu'on fait du transversal. Il faut prévoir de quoi assumer les tâches difficilement finançables dont parlait Vincent. Moi, j'ai toujours passé mes marchés avec de la documentation incluse et au moins la traduction française associée, des tests unitaires. J'avoue, à l'époque, je ne comprenais pas les notions de packaging, de faire les installeurs sous Windows, sous Mac, etc. Mais maintenant, avec la maturité et le recul, j'inclurai ces items-là parce que ce sont des tâches cachées qu'il faut financer. Et en fait, on a des solutions dans les marchés publics. Souvent, on a une peur d'attaquer l'achat de services en mode traditionnel sur des objets qu'on comprend mal. Mais on a tous les outils qu'il faut avec des marchés cadres qui permettent de passer des petits marchés rapides, itératifs, agiles, avec pas trop de lourdeur administrative. Hein. J'avais par exemple fait des accords cadres inspirés d'ailleurs de ceux de l'Institut Géographique National qui a un grand savoir-faire dans l'intervention sur le logiciel libre. Depuis des années, et on avait trouvé une façon de faire intervenir chacun des spécialistes du domaine dans son cœur de métier. C'est aussi ça, derrière, on n'a pas une grosse société, on a une galaxie de gens avec leur domaine spécialisé. Donc si on veut intervenir sur les librairies GEDAL et proches, on a la chance en France d'avoir le lead développeur qui est d'une efficacité extrême, Evan Rouault. Si on veut faire du QGIS qui est tellement large, de la 3D, on va pas aller chercher les mêmes personnes que si on veut faire du QGIS pour faire des applications métiers. Et puis on va essayer de s'associer pas que à du service d'achat, on va essayer de mettre aussi du support, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait il faut quelques années pour rentrer dans la culture d'un projet libre, comprendre ses codes, suivre les discussions, savoir à quel moment aller proposer quelque chose. Hein. Parfois on est trop en avance, on a raison trop tôt, mais ça convient à personne. Il faut apprendre à prendre ce temps de ce rythme. Là, les rencontres développeurs sont absolument importantes et à mon sens, faire en sorte que si on est un financeur de QGIS, il faut pouvoir y aller et laisser la chance à quelques participants d'y aller et venir faire diffuser cette culture au sein des services publics ou collectivités.
En tout cas, du coup, j'ai l'impression que ce que tu nous expliques, c'est que l'outil juridique pour faire des marchés qui fonctionnent avec le logiciel libre, il existe. Le problème, c'est de maîtriser de manière fine ces outils, d'adapter la bonne méthode et de connaître de l'intérieur le fonctionnement des communautés. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, mon point de vue, du coup, de prestataire en éditeur logiciel libre là-dessus, c'est qu'effectivement, on a les outils juridiques. Par contre, ils sont rarement utilisés. On se retrouve souvent, même si les équipes techniques, le besoin fonctionnel des équipes métiers ont bien exprimé leurs besoins, sont bien conscientes du logiciel, ont bien la compréhension de l'écosystème, des besoins, etc. Parfois, et la plupart du temps, ça coince au niveau des achats et des services des marchés qui vont, eux, faire des marchés qui sont tout ce qu'il y a de plus classique, comme s'ils achetaient du logiciel privateur. Et dans ce cas-là, eh ben, nous, on ne s'y retrouve pas parce qu'on va se retrouver dans une situation où ça va être basé sur le prix majoritairement. Et si on commence à faire la course au prix, nous, en tant que société de services en logiciel libre, on ne peut pas se permettre de... On va pouvoir faire le développement qui est demandé, mais par contre, on ne pourra jamais financer la documentation, on ne pourra jamais financer l'infrastructure et on ne pourra jamais faire avancer le projet avec une qualité suffisante. Donc, on va rajouter des fonctionnalités, on va augmenter de la dette technique. Et ça, à terme, c'est pas bon pour le client qui a commandé, pour l'organisme public, et c'est pas bon pour nous parce que c'est pas soutenable et c'est pas bon pour le projet QGIS non plus. Donc il faut effectivement continuer à convaincre notamment les services de marché qu'ils ont les outils et qu'il faut qu'ils les utilisent pour aller dans le sens du projet. Alors nous, on essaie de faire des choses du type vente de la maintenance informatique, qui est quelque chose qui est compris des marchés et qui rentre pas dans les mêmes cases, et qui, pour le coup, ouvre des capacités plus importantes de financement de tout ce qui est difficile à financer par ailleurs, donc tout ce qui n'est pas nouvelle fonctionnalité, par exemple.
Merci Vincent. On approche de la fin et donc je vous propose chacun de prendre 2 minutes maximum pour conclure. Si vous avez envie d'ajouter quelque chose, d'insister sur un point qui vous tient particulièrement à cœur, Régis, s'il te plaît.
Oui, alors pour moi, ce que je retiens de QGIS, c'est que c'est avant tout une communauté extrêmement accueillante. Donc si vous pouvez accueillir un événement, participer à un événement, allez-y, vous allez voir à quel point c'est dynamique et efficace. Et ensuite, n'ayez pas peur de venir contribuer directement via vos marchés. C'est la zone d'inconfort des géomaticiens. On sait faire de la technique, on n'ose pas faire du marché public. Les solutions existent pour y aller. Dès que vous rencontrez un problème, faites-le remonter, venez discuter avec la communauté QGIS-FR, avec des prestataires, ou directement en anglais si vous êtes à l'aise, avec les développeurs sources. Hein, c'est le circuit court, c'est le bio de l'informatique, le libre. Vous pouvez discuter en direct avec le développeur, c'est une chance phénoménale. Donc saisissez-la et puis n'oubliez pas de prendre le temps d'apprendre un écosystème. De ne pas plaquer des réflexes précédents, y compris pour les marchés publics et privés.
Le libre, c'est le circuit court de l'informatique. Ça restera ça. Vincent, à toi, quelques mots de la fin.
Oui, j'espère qu'on a donné envie aux gens de découvrir un peu ce que c'est l'ESIG et QGIS en particulier. C'est un domaine qui est très sympa parce que ça va amener à toucher à des métiers totalement divers, et puis il y a des petites images, il y a des cartes, il y a quand même un côté très attractif de ce domaine-là. Donc n'hésitez pas à plonger là-dedans, parce qu'en plus, il y a du boulot, on est toujours en recherche de nouveaux développeurs dans le projet QGIS, dans le projet, et pas que des développeurs, parce que aussi des documentaires, des gens qui font de l'infrastructure. Donc on a besoin de forces vives, et la dynamique du projet est là, la bienveillance est là aussi dans la communauté en général, et puis pour conquérir le monde et finir de remplacer Esri et AutoCAD un peu partout, on a besoin de force vive, donc rejoignez la force.
Régis Aubourg, Vincent Picavé, un immense merci d'avoir accepté l'invitation à participer à cette émission. Merci pour votre temps, merci pour votre passion, merci pour votre énergie. Et je ne peux que confirmer ce qui vient d'être dit. QGIS est un projet extrêmement ouvert, extrêmement abordable. Et même si vous n'êtes pas géomaticien, même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez faire des choses avec QGIS. C'est même un logiciel que je qualifierais de ludique. Et avec tout ce qui se passe en ce moment autour de l'open data, QGIS, c'est un couteau suisse qui permet d'ouvrir les fichiers libérés par les collectivités pour les visualiser, pour les traiter. Et tout ça, je pense que ça laisse entrevoir des perspectives énormes. Merci encore à tous les deux et je rends l'antenne.
Bien, écoute, merci Jean-Christophe. Nous avons donc parlé donc du système d'information géographique libre QGIS. Le site web principal c'est qgis.org et toutes les références citées dans l'émission vous les retrouverez sur causecommune.fm et sur april.org. Je remercie donc un grand merci à Régis Aubourg et Vincent Picavet. Un énorme merci à Jean-Christophe pour avoir préparé et animé ce sujet long. Et donc je vous souhaite une belle fin de journée et que la force soit avec vous.
Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Je suis Isabelle Lavagny. Nous venons d'écouter une rediffusion d'un sujet du 9 mars 2021 sur le système d'information géographique libre QGIS.